Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manirakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du vendredi 26 avril 2024. Donc voici d'abord les principaux titres. Mobilisation de l'opposition togolaise en vue des élections législatives et régionales. À Conakry, les plages submergées par les déchets, un défi majeur pour la gestion de ces déchets.
D'autres versent dans les caniveaux, d'autres versent sur le goudron, chose qui n'est pas normale. On produit plus d'ordures.
Le Bénin, le Libéria et la Sierra Leone rejoignent la lutte mondiale contre le paludisme avec le déploiement massif de vaccins pour les enfants, annoncent l'OMS et l'UNICEF. Réduction significative des accidents de la route en Côte d'Ivoire grâce au système de permis à points.
Quand on a un permis, on pense aux autres, on pense à notre conduite, on pense au futur. Quand on a un véhicule, on ne le donne pas à n'importe qui.
La RDC accuse Apple d'utiliser dans ses produits des minerais extraits illégalement de mines congolais. Les pourparlers égypto-israéliens sur Gaza se poursuivent pour un cessez-le-feu et la libération des otages. Le conseil présidentiel de transition en Haïti officiellement investi face à la montée de la violence des gangs. Ne manque pas notre page sport ainsi que la Minute Echo pour l'instant le journal. Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a annoncé la suspension temporaire des programmes de BBC Afrique et de la VOA suite à la diffusion d'une nouvelle sur un rapport de Human Rights Watch accusant l'armée burkinabée d'exactions contre les populations civiles. Le Conseil a notamment ordonné l'arrêt immédiat de la rediffusion de l'élément en question et la suspension des programmes des deux stations de radio internationale pendant 2 semaines. L'accès au site web et aux plateformes numériques de la BBC, de VOA et de Human Rights Watch a été suspendu au Burkina Faso. En rapport avec la diffusion de son élément sur le rapport de Human Rights Watch, la VOA a sollicité les réactions des autorités burkinabées, mais n'a rien reçu, aucune réponse. La VOA s'en tient à ses reportages sur le Burkina Faso et entend continuer à couvrir de manière complète et équitable les activités dans ce pays. L'Alliance nationale pour le changement ANC, principale force d'opposition au Togo, a mobilisé ses militants en vue des élections législatives et régionales prévues pour le 29 avril. Lors d'un meeting à Lomé, l'ANC a exhorté ses militants à sortir massivement pour faire entendre leur voix et conquérir des sièges clés au Parlement. Nani Tetalani.
Des centaines de militants de l'ANC se sont rassemblés dans un quartier populaire de la capitale togolaise, Lomé. Jean-Pierre Fabre, président de cette formation politique, et Francis Pedro Amouzou, candidat aux législatives, ont galvanisé leurs partisans pour affluer aux urnes en nombre et ainsi obtenir une victoire significative. Les militants du parti ont été fortement sensibilisés sur la manière de voter afin d'éviter toute erreur susceptible d'invalider les bulletins. Ils ont également été sensibilisés sur les enjeux cruciaux de ces élections, notamment la révision constitutionnelle récemment adoptée. Jean-Pierre Fabre a dénoncé cette démarche constitutionnelle comme une tentative délibérée de maintenir le statu quo et de prolonger la présidence actuelle. La nouvelle constitution fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Ce sont les députés qui éliront le chef de l'État pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Le chef du parti vainqueur des élections du 29 avril sera nommé président du Conseil des ministres.
La RDC accuse le groupe Apple d'utiliser dans ses produits des minerais extraits illégalement provenant potentiellement de mines congolaises. Des avocats représentant les autorités congolaises suggèrent que ces minerais seraient transportés hors de la RDC et notamment vers le Rwanda où ils seraient blanchis. Alexandrine Relogno.
Les avocats mandatés pour rédiger une mise en demeure affirment que la société Apple utilise dans ses produits des minerais stratégiques achetés au Rwanda. Le Rwanda, selon eux, est un acteur central de l'exploitation illégale de minerais et notamment de l'exploitation de l'étain et du tantal en RDC. Après leur extraction illégale, ces minerais sont importés par contrebande au Rwanda, où ils sont intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, affirme la mise en demeure. Ces minerais litigieux proviendraient en grande partie de mines congolaises, au sein desquelles de nombreux droits humains sont violés, poursuivent les avocats. Cette mise en demeure a été adressée cette semaine aux deux filiales d'Apple en France par les avocats français William Bourdon et Vincent Bringart. Un courrier a également été envoyé à la maison mère américaine du géant de la tech qui commercialise notamment l'iPhone et les ordinateurs Mac. Le sous-sol de la RDC regorge de minerais, le pays étant notamment le premier producteur mondial de cobalt et le premier producteur africain de cuivre.
Trois autres pays africains ont lancé d'importantes campagnes de vaccination contre le paludisme visant à immuniser des millions d'enfants sur le continent, annoncent l'OMS et l'UNICEF. Michel Claire-Joseph.
Le Bénin, le Libéria et la Sierra Leone rejoignent d'autres pays africains qui proposent déjà ce vaccin dans le cadre de leur programme de vaccination des enfants, selon le communiqué. Depuis 2019, plus de 2 millions d'enfants ont été vaccinés au Ghana, au Kenya et au Malawi dans le cadre d'une phase pilote, ce qui a permis de réduire considérablement les cas de paludisme grave et les hospitalisations. Le vaccin doit être administré en 4 doses. Selon l'OMS, le programme pilote mis en œuvre au Ghana, au Kenya et au Malawi a permis de réduire de manière significative les cas de paludisme, de diminuer de 13% la mortalité infantile globale. Avec le nouveau vaccin contre le paludisme, sûr et efficace, nous disposons désormais d'un outil supplémentaire pour lutter contre cette maladie, a déclaré le docteur Austin Demby, ministre de la Santé de la Sierra Leone. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique représente environ 94% des cas de paludisme dans le monde et 95% des décès liés à cette maladie transmise par les moustiques, la plupart d'entre eux étant des enfants.
La Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, devenue la plus importante manifestation du genre sur le continent et qui devait se dérouler en juin, est reportée au mois de novembre, a annoncé le gouvernement sénégalais dans un communiqué. La nouvelle programmation de l'événement de cette 15e édition est fixée du 7 novembre au 7 décembre 2024, précise le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. La Biennale de Dakar, créée en 1992, est aujourd'hui la troisième biennale au monde, selon ses organisateurs.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil présidentiel de transition en Haïti a prêté serment hier après la démission officielle du Premier ministre Ariel Henry. Ce conseil est maintenant chargé de gouverner un pays confronté à la violence des gangs. Yacouba Ouédraogo.
Les 9 membres du Conseil, 8 hommes et une femme, ont été investis lors d'une cérémonie en 2 temps. D'abord au palais présidentiel, puis dans une résidence officielle du gouvernement. Les États-Unis ont salué une étape cruciale pour l'organisation d'élections dans un pays qui n'en a pas connu depuis 2016. L'ONU parle d'une nouvelle opportunité d'avancer vers le rétablissement des institutions démocratiques. Première priorité du Conseil, le rétablissement de la sécurité publique, a affirmé l'une de ses membres, Régine Abraham. La capitale est à 80% aux mains des bandes criminelles accusées de viol, pillage et enlèvement contre rançon. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, Michel Patrick Boisvert a été nommé Premier ministre intérimaire selon le cabinet sortant. M. Boisvert signait déjà nombre de communiqués officiels ces dernières semaines, Ariel Henry n'ayant pas pu regagner son pays après un déplacement au Kenya et se trouvant aux États-Unis. Une mission internationale de sécurité soutenue par l'ONU et censée être menée par le Kenya est toujours dans les limbes.
L'Égypte poursuit les discussions avec Israël sur la situation dans la bande de Gaza, ont déclaré jeudi de sources de sécurité égyptiennes. Ces pourparlers se déroulent dans le cadre de nouvelles tentatives de médiation visant à instaurer un cessez-le-feu et à obtenir la libération des otages. Mohamedou Oumfa.
Des responsables égyptiens, israéliens et américains ont tenu des réunions en personne et à distance mercredi pour tenter d'obtenir des concessions et sortir de l'impasse des négociations. L'Égypte estime qu'Israël s'est montré plus disposé à autoriser les déplacés de Gaza à retourner vers le nord de l'enclave avec des contrôles de sécurité limités et des procédures allégées pour ceux qui ne sont pas soupçonnés d'activités dangereuses. La capacité des civils à retourner dans le nord de Gaza sans entrave et le retrait ou le repositionnement des forces israéliennes ont été des points d'achoppement lors des précédentes négociations dans lesquelles l'Égypte et le Qatar ont joué le rôle de médiateurs. Une réunion entre des responsables égyptiens et israéliens devrait avoir lieu vendredi au Caire, ont indiqué des sources égyptiennes. S'en suivront d'autres réunions avec le Hamas. Jeudi, les États-Unis et 17 autres pays ont lancé un appel au Hamas pour qu'il libère tous ses otages, mais le Hamas a annoncé qu'il ne céderait pas à la pression internationale.
La tension est restée vive sur les campus américains où le mouvement de protestation contre la guerre à Gaza se généralise à travers le pays. De Los Angeles à Atlanta, d'Austin à Boston, en passant par Chicago, le mouvement d'étudiants américains pro-palestiniens grossit d'heure en heure après s'être parti il y a plus d'une semaine de l'Université Columbia à New York. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Mohamedou Oumfa.
La Côte d'Ivoire perd chaque année 80 millions de dollars, soit environ 0,11% de son PIB, en raison des inondations dues au changement climatique, indique un rapport du Fonds monétaire international. En février, le FMI avait approuvé un programme d'aide de 1,3 milliard de dollars en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce financement est destiné à soutenir des réformes visant à lutter contre le changement climatique et à atténuer ses conséquences. Au quatrième trimestre de 2023, le Togo occupait la première place parmi les fournisseurs du Bénin au sein de la CEDEAO, avec 38% de la valeur totale des importations dans l'espace communautaire, selon le bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur publié mardi à Cotonou. Les principaux biens acquis du Bénin étaient des huiles de pétrole ou des minéraux bitumineux, le riz et les véhicules automobiles, précise le document réalisé par l'Institut national de la statistique et de la démographie. La production mondiale de vin, perturbée par des sécheresses, des vagues de chaleur, des incendies, du gel précoce ou des pluies favorisant inondations et maladies, a chuté de 10% en 2023, tandis que la consommation a reculé de 3%, a indiqué jeudi l'Organisation internationale du vin. Les vignerons du monde ont produit au total 237 millions d'hectolitres, leur plus faible vendange depuis 1961, selon l'organisation.
Et sans transition, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo dans votre page des sports. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
La Basketball Africa League reprend ses droits ce vendredi après un jour de repos.
Oui, revigorés par leur victoire contre le champion en titre Alali, après trois défaites de suite, les Ougandais de City Oilers vont jouer crânement leur chance contre Bangui Sporting Club, vainqueur aussi mercredi. Dans l'autre match, Al-Ahly d'Égypte, 4 matchs, 3 victoires et Al-Ahly de la Libye, 4 matchs, 2 victoires s'affrontent. Les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes de l'ensemble des trois conférences se qualifient directement pour les play-offs prévus à Kigali au Rwanda du 24 mai au 1er juin prochain.
Football avec les demi-finales retour de la Ligue des champions, CAF.
L'Espérance de Tunis se déplace au stade Loftus Wetzel d'Afrique du Sud pour affronter les Mamelodi Sundowns. Les Tunisiens ont petit avantage grâce à leur victoire 1-0 au match aller à Rades. L'Espérance de Tunis détient la meilleure série dans la compétition car n'ayant encaissé aucun but lors de ses 7 derniers matchs en Ligue des Champions. Dans l'autre demi-finale retour, les Congolais du tout-puissant Mazembe se rendent au Caire pour défier Al-Ahly après le 0-0 à l'aller à Lubumbashi.
En Espagne, le gouvernement annonce la mise sous tutelle de la Fédération de football.
La cause, une enquête pour corruption au sein de la Fédération espagnole de football, auparavant secouée par le scandale du baiser forcé de son ex-président Luis Rubiales. Une commission de supervision, de normalisation et de représentation créée par le Conseil supérieur du sport et dirigée par des personnalités indépendantes va exercer la tutelle de la Fédération espagnole de football durant les prochains mois dans l'intérêt de l'Espagne, candidate à l'organisation du Mondial 2030, conjointement avec le Portugal et le Maroc, ajoute le communiqué du Conseil supérieur du sport, un organisme dépendant du ministère des Sports. Déjà secoué par le scandale du baiser forcé de Luis Rubiales à la championne du monde Jenny Hermoso l'été dernier, la Fédération espagnole de football est désormais au centre d'une enquête pour corruption qui a entraîné la mise en examen de l'ancien homme fort du foot espagnol et de son successeur par intérim à la tête de la Fédération, Pedro Rocha.
C'était les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Il y a déjà un an que le système de permis à points a été mis en place en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes affirmaient que grâce au système de pointage par vidéo verbalisation, les accidents de la route ont considérablement diminué avec une baisse de 20% du nombre de personnes tuées sur les routes. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomegno.
Nous sommes dans la commune de Cocody, sur le tronçon qui mène à la rivière à Troyes. Des agents de sécurité routière font des contrôles d'alcoolémie sur quelques usagers de la route. Ils reconnaissent que le permis à point a contribué à réduire considérablement les accidents de la route. Bassiriki Dembélé, commissaire de police.
Lorsque vous êtes contrôlé en état d'ivresse au volant, c'est-à-dire que quand vous avez dépassé ou que vous avez atteint la norme de 0,8 g par litre de sang, ça veut dire que non seulement d'abord, vous êtes en état d'infraction, c'est-à-dire que c'est une faute pénale, on va vous entendre, on va vous déférer devant le procureur de la République pour que vous soyez jugé. Au-delà de ça, c'est une infraction qui est passible de retrait sur votre permis de conduire. Et cela permet de retirer 6 points sur votre permis de conduire. Ça veut dire que lorsque vous vous mettez au volant chaque fois, vous devez vous rassurer que vous n'avez pas bu de l'alcool.
Selon les agents de la sécurité routière, au moins 59% des permis ont fait l'objet de retrait dans le cadre du permis à points. Et pour ce qui est de la ville d'Abidjan, il y a eu une réduction de 25% du nombre de personnes tuées sur la route. Plusieurs usagers reconnaissent en effet que le permis à point a régulé de manière significative la circulation de la route à Abidjan. Fofana Yaya, usager de la route.
C'est vrai qu'au début, on a vu beaucoup d'améliorations. Et puis après, on a senti qu'il y avait un relâchement au niveau des conducteurs en tout cas. Parce que dès le début, je voyais que les gens vraiment respectaient les feux. Et puis les gens faisaient bien attention à la vitesse. Parce que par exemple, cette voie, pour ceux qui le savent, il y a un truc d'une caméra qui est juste à. Donc tout le monde allait doucement. Mais les gens commencent à de plus en plus empiéter là-dessus. C'est vraiment le constat que je fais. Quoi.
Pour la police routière, le permis à point vise avant tout à sensibiliser les conducteurs sur les dangers de la route. Son entrée en vigueur n'avait pas fait l'unanimité auprès des usagers. Aujourd'hui, il est plutôt bien adopté par l'ensemble des usagers de la route. Touré Abdoulkader, directeur de la police spéciale de sécurité routière.
Le permis à point, c'est d'amener tout le monde à être responsable de son permis et de son véhicule. Voilà pourquoi je l'ai cadré dans la partie sensibilisation. On est citoyen, on est responsable. Quand on a un permis, on pense aux autres, on pense à notre conduite, on pense au futur. Quand on a un véhicule, on ne le donne pas à n'importe qui. On le fait faire parce que tout ça là est arrimé à un permis à conduire, à un retrait de points.
Le permis à points a fait son entrée en Côte d'Ivoire le 1er mars 2023. Un an après sa mise en œuvre, près de 8000 permis de conduire ont perdu entre 2 et 6 points et environ 250 permis de conduire ont eu un solde nul selon le gouvernement ivoirien. Ange Bijou Nomeyon pour VOA Afrique, Abidjan.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Conakry, la capitale de la Guinée, est aux prises avec de graves problèmes de gestion des déchets. Malgré les efforts déployés par le gouvernement, la situation demeure préoccupante. Les défis liés à la pré-collecte sont considérables, entraînant l'accumulation de déchets à divers endroits, y compris sur les plages. Les rivages de Conakry sont ainsi envahis par les déchets, comme le relate notre correspondant sur place, Zakaria Kamara.
avec une production de plus de 1000 tonnes par jour, Conakry peine à garantir une meilleure collecte des ordures au niveau des ménages. Nafadima Diomandé accuse les PME chargées du ramassage des ordures.
Quand tu payes, il ne vient pas. Et pourquoi ? À quoi sert de payer ? D'autres versent dans les caniveaux, d'autres versent sur le goudron. Chose qui n'est pas normale, mais on ne peut pas dire aussi que c'est la faute aux gens parce qu'on produit plus d'ordures. On n'a que deux poubelles ici, par exemple. Bon, regardez ici, là, dans le quartier, là, si on n'a seulement que deux poubelles, qu'est-ce qu'on peut ? On n'y peut rien.
Les défis de la pré-collecte sont importants. Il n'y a pas suffisamment de PME chargées du ramassage des ordures. Certaines ne passent que deux fois par semaine. Alcini Bondabon Camara, directeur service hygiène et salubrité à la mairie de Matoto.
C'est dû au manque d'abonnement aux PME. Et ces PME, c'est des petites et moyennes entreprises qui sont chargées de ramasser les ordures porte en porte. Et il y a des points noirs qui sont indiqués à ces PME quand ils ramassent des ordures porte en porte où ils doivent déverser ces ordures. Et si le citoyen refuse de s'abonner à une PME pour ramasser les ordures, c'est ce qui nous amène à retrouver les ordures dans les carniveaux et en bordure de mer.
Les difficultés de la pré-collecte poussent certains habitants à jeter les ordures dans des caniveaux, des ordures ensuite drainées par les eaux de pluie jusqu'à la mer, comme ici, à la plage Bénarès, dans la banlieue de Conakry. Cette situation n'arrange pas les restaurants. Pierre Onivogui a vu son chiffre d'affaires baisser.
Les clients qui viennent ainsi nous faire monter les ordures. Ces ordures-là, s'il y a beaucoup d'ordures, les clients ne peuvent pas s'asseoir dans les ordures-là. Donc ça les fatigue, ça diminue nos clientèles, quoi.
Selon les responsables de la plage, le ramassage se fait au quotidien. Mohamed Keita, chargé de l'assainissement de la plage.
Chaque jour, ça déverse beaucoup d'ordures. Et on est là chaque jour pour assainir. Seulement qu'on a deux jours de repos dans le travail, dans la semaine. Mais la saison pluvieuse, là ça va encore beaucoup cracher sur la mer. Donc ça vient loin, ça dans les quartiers presque, je peux dire. Tu peux trouver même les seringues, les bouteilles, les bois.
Ici, on trouve plusieurs types de rébus, parmi lesquels les déchets plastiques, dont la production annuelle est estimé à environ 500 000 tonnes dans tout le pays. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Le Bénin a franchi une étape significative dans sa lutte contre le paludisme en recevant lundi soir plus de 200 doses du vaccin antipaludique RTS-S. Ce vaccin est spécialement destiné aux enfants âgés de 0 à 2 ans qui sont les plus vulnérables aux formes graves de la maladie dans le pays. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradante.
Nous avons pas mal de méthodes en Afrique et principalement au Bénin. Mais ces méthodes-là, est-ce que ça suffit ? Ça ne suffit pas. Ces méthodes-là ne suffisent pas, d'accord ? Ces méthodes ne suffisent pas et il va falloir donc faire recours à cette vaccination-là. Donc c'est une bonne nouvelle. Et dit que voilà, si on se fait vacciner, ça va entraîner telle maladie, va faire si. Je pense que c'est des idées qu'il faut laisser de côté et laisser les enfants sortir massivement pour se faire vacciner.
Le vaccin, après tout, reste une solution pour la question de la gestion du paludisme dans notre pays. Et je pense que nous devions accompagner cette action-là. Nous devions nous mobiliser fortement pour que les enfants de 6 à 23 mois puissent sortir se faire toutes les doses pour ne plus tomber malade du paludisme jusqu'à l'âge de 7 ans. Et je pense que passé cet âge-là, ils auront déjà l'immunité nécessaire pour faire face à cette maladie.
Au niveau de la commune d'Alada, nous avons prévu plusieurs actions, notamment la sensibilisation. C'est ça qui doit commencer d'ici la semaine prochaine. Il y a la sensibilisation dans tous les contrées de la ville, dans tous les contrées de la commune d'Alada, pour expliquer un peu les bienfaits du vaccin. De l'autre côté, vous voyez, il y a aussi des intoxications et que beaucoup utilisent les réseaux qui circulent un peu. On veut éradiquer aussi ça. On va essayer de parler. Et pour que les agents de santé arrivent sur le terrain aient la main facile pour pouvoir vacciner les enfants de moins de 2 ans.
J'ai appris hier par le biais d'une sage-femme qu'il y a la vaccination contre le paludisme aujourd'hui. J'ai pris la permission chez mon mari qui me l'a accordée. Donc je suis venue faire vacciner mes enfants parce que les moustiques de maintenant sont trop virulents. Même quand ils piquent, une grande personne en a franchement mal. Donc, j'invite mes sœurs à venir faire vacciner leurs enfants.
Voilà l'homme de la rue qui s'exprimait. Propos recueillis par notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Aux États-Unis, sur des campus universitaires, les manifestations pro-palestiniennes sont devenues monnaie courante. Les étudiants expriment leur opposition à la guerre menée par Israël et le Hamas à Gaza, réclamant l'autorisation d'une aide humanitaire dans la région. Malgré des arrestations et des suspensions, le mouvement ne montre aucun signe d'affaiblissement. C'est un reportage de Veronica Balderas Iglesias, récit Yacouba Ouedraogo.
Des étudiants pro-palestiniens manifestent à l'Université de Columbia à New York alors que les administrateurs appellent au démantèlement des campements. Jeudi dernier, plus de 100 étudiants ont été arrêtés dans des universités américaines. Ces manifestations interviennent au moment où les administrateurs des établissements scolaires sont invités à lutter contre l'antisémitisme. Une manifestante qui a refusé de donner son nom parle des revendications des étudiants.
Je suis ici pour demander un cessez-le-feu immédiat afin que nous puissions acheminer l'aide humanitaire à Gaza.
Mary McLeod, professeure d'architecture, s'est exprimée sur les mesures prises pour gérer les manifestations.
Je ne sais pas pourquoi ils ont dû faire venir les flics, mettre des menottes aux étudiants et pourquoi ils ne peuvent pas accepter quelques tentes où les étudiants étaient totalement pacifiques.
Une étudiante de Columbia, s'identifiant comme juive argentine, voit différemment les choses.
C'est très effrayant. Je ne peux pas me concentrer pendant les cours parce qu'ils crient toute la journée. J'ai peur de dire que je suis juive parce qu'il y a des extrémistes. Ils tenaient des photos soutenant le Hamas.
Les manifestations ont continué à s'étendre à d'autres campus américains. Mardi, un camp de tente a été érigé à l'Université de Californie à Berkeley en signe de soutien aux personnes arrêtées lundi dans les universités de Columbia et de Yale. À Washington, D.C., les étudiants de l'American University ont protesté contre les politiques internes qui, selon eux, résultent des manifestations pro-palestiniennes dans tout le pays et restreignent leur liberté d'expression. Rulia Comino est la secrétaire de l'Association des étudiants de l'American University. Elle s'est entretenue avec la VOA via Skype.
Il s'agit d'une nouvelle politique qui interdit les manifestations à l'intérieur des bâtiments, alors que l'American University a une longue tradition de manifestations et qui restreint aussi l'affichage et le type de matériel qui peut être affiché sur le campus, ainsi que les personnes qui peuvent le faire.
Dans une déclaration à la VOA, l'American University a indiqué que les directives ont été prises pour renforcer la sécurité et le sentiment d'appartenance des étudiants et qu'elle continuerait à soutenir les droits et les responsabilités de la liberté d'expression. Le président Joe Biden a déclaré aux journalistes qu'il condamnait les manifestations antisémites et, entre autres, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe avec les Palestiniens. Entre-temps, le nombre de morts à Gaza a dépassé les 34 000, selon le ministère de la Santé de Gaza, et rien n'indique que la guerre entre Israël et le Hamas s'achèvera bientôt.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakiza sous micro. Georges Léonard Sagnot, DJLS, a assuré la production et la réalisation à la console de Nachwan Kale. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Un excellent week-end. À la prochaine.